que quand vous lisez une nouvelle de Fitzgerald ou même un roman, tout à coup, vous êtes projeté comme de l'autre côté de l'écran dans une Amérique que vous comprenez enfin. Le trait d'union, il est à plusieurs niveaux. D'abord, je pense que ce que nous raconte Fitzgerald parfois est extraordinairement prémonitoire, comme beaucoup d'écrivains le font. Je parlais de la nouvelle tout à l'heure qui pour moi est un peu mettre en scène un personnage qui est Trump avant l'heure, hein, un milliardaire qui veut que de l'argent et qui s'intéresse plus à la vérité. Vous voyez, ça c'est typiquement quelque chose d'aujourd'hui. On pourrait peut-être aussi se dire que la littérature contemporaine doit énormément à Fitzgerald.
Oui, vous publiez d'ailleurs un extrait du prochain roman de Jay McInerney, Les jours enfuis, ouais, qui se revendique de Fitzgerald.
McInerney, alors c'est vrai, on se dit c'est Fitzgerald parce que ça brille, parce que c'est les couples célèbres de Manhattan, mais pas seulement. Il y a aussi le désespoir. Fitzgerald écrit sur le couple. Voilà, c'est l'Amérique du couple aussi, et McInerney est son digne héritier.
Et dans ce premier numéro d'America, François Bunel, grand entretien aussi avec Toni Morrison, l'auteur de Beloved, Nobel de littérature, marraine de ce nouveau MOOC. À 86 ans, elle confesse dans vos pages que dans les semaines qui ont suivi l'élection de Donald Trump, elle confesse être devenue étrangère en son pays. À la question « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?», elle vous répond « Écrire, les gens ont besoin de littérature, fuir sous prétexte que le nouveau gardien du pays est un fou dangereux, ce serait déserter. » Voilà, la littérature comme acte de résistance avec les écrivains américains d'aujourd'hui, mais également avec ceux d'hier, comme Scott Fitzgerald, dont Grasset publie avec Fayard aujourd'hui 18 nouvelles inédites sous ce titre « Je me tuerai pour vous ». C'est à lire et c'est traduit par vous, Marc Onfreville. Merci beaucoup. Merci François Bunel.
Merci Lydia.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente Neige, d'après le chef-d'œuvre d'Orhan Pamuk, prix Nobel de littérature, mise en scène par Blandine Savetier. Dans Kars, ville frontière de la Turquie, coupée du monde par la neige, le poète K enquête sur les suicides de jeunes femmes voilées, avant d'être happé par les événements. Comment survivre aux machines idéologiques et religieuses qui écrasent les hommes? Une pièce essentielle pour plonger aux sources de l'islamisme et de l'oppression d'État. Neige, du 26 au 28 avril à la Criée, Théâtre National de Marseille. Un partenariat France Culture. Chaque samedi, dès 7h, la matinale du samedi par Caroline Brouet.
Rendez-vous demain dès Potron Minet, accompagnée des doigts fougueux de l'étoile montante du piano Katia Bougnatichvili. Elle sera notre première invitée à 7h15. À 8h15, alors que débutera dans 500 villes du monde entier une grande marche pour les sciences, nous aurons le plaisir et l'honneur de recevoir le mathématicien Yves Meyer, qui vient de recevoir le plus prestigieux des prix mathématiques, le prix Abel. Enfin, dans la fabrique médiatique à 7h45, qu'est-ce qui fait la viralité d'une photo? C'est la question que nous poserons à Marie-Pierre Subtil de la revue 6 mois et au directeur de la photo à Libération, Lionel Charrier.
La matinale du samedi, demain dès 7h. À écouter aussi sur franceculture.fr.
France Culture, il est 12h30. Tout de suite, c'est le journal d'Antoine Mercier. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Au lendemain de l'attentat qui a coûté la vie à un policier à Paris, Bernard Cazeneuve, Premier ministre, assure que rien ne doit entraver le moment démocratique de la présidentielle. Fondamental, dit-il, pour notre pays, nous l'entendrons dans un instant. L'assaillant est un Français de 39 ans qui avait été condamné en février 2005 à 15 ans de réclusion pour 3 tentatives d'homicide volontaire, dont 2 visaient des policiers. Précision sur l'enquête avec Marie-Pierre Véraud et Florence Turme. La dernière journée de campagne qui se trouve bouleversée par cet attentat. D'hier, plusieurs candidats ont annulé leur déplacement. Les observateurs s'interrogent sur le rôle éventuel de cet attentat sur la campagne au moment de la cristallisation du vote. Analyse avec Antoine Marette. Et puis la campagne officielle s'achève donc ce soir à minuit. Les médias n'ont plus le droit de publier, de diffuser des sondages, ni d'ailleurs des déclarations des candidats jusqu'à dimanche 20h. Proclamation, en tout cas publication des premiers résultats. Stéphane Robert va tirer pour nous dans cette édition les enseignements de la dernière enquête Ipsos pour Radio France. L'invité de la séquence interview, ce sera l'économiste Julia Cagé, qui est soutien de Benoît Hamon. Et dans la dernière partie de la grande table, Olivia Gesbert.
Dans l'actualité des idées, aujourd'hui, les sciences en campagne, la recherche, son organisation, ses ambitions. Pourquoi la question scientifique est à la peine dans cette présidentielle? On en parle bien sûr à la veille de la grande marche mondiale pour les sciences qui aura lieu demain, partout dans le monde et qui partira de Washington avec nos invités, le neurobiologiste Alain Prochiand et Ami Daran, qui seront avec nous à partir de 12h55.
Au lendemain donc de cet attentat qui a coûté la vie à un policier à Paris, Bernard Cazeneuve assure que rien ne va, ne doit entraver le moment démocratique que nous vivons. À l'issue d'un conseil de défense réuni autour de François Hollande à l'Élysée ce matin, le chef du gouvernement en appelle à l'unité du pays et il détaille aussi le dispositif qui est mis en place donc pour le vote ce dimanche.
Plus de 50 000 policiers et gendarmes seront mobilisés afin de garantir la sérénité du déroulement des opérations électorales. Dans le cadre de l'opération Sentinelle, ce sont 7 000 militaires qui sont déployés sur l'ensemble du territoire national et concourent à la protection du scrutin. Au-delà des moyens traditionnels, les unités spécialisées d'intervention sont placées en état d'alerte selon le schéma national d'intervention que nous avons mis en place l'année dernière pour garantir une réactivité totale qui a montré son efficacité. Mesdames et messieurs, le gouvernement est pleinement mobilisé. Rien ne doit entraver ce moment démocratique fondamental pour notre pays.
Bernard Cazeneuve, donc, qui s'est ensuite rendu en compagnie du chef de l'État et du ministre de l'Intérieur au chevet du policier grièvement blessé dans cet attentat qui était à l'hôpital européen Georges Pompidou. Attaque qui a eu lieu donc vers 21h hier soir, aussitôt revendiquée par l'État islamique. Communiqué de l'agence AMAC qui affirme qu'il s'agit d'un homme nommé Abou Youssef le Belge, que l'agence qualifie de combattant de l'État islamique. En tout cas, trois proches de l'assaillant sont interrogés depuis ce matin en garde à vue par les services antiterroristes. Trois personnes qui font partie de l'entourage du tueur abattu par les forces de l'ordre. Il s'agit d'un Français de 39 ans dont l'identité n'a pas encore été révélée. Marie-Pierre Véraud, qu'est-ce que nous savons pour l'instant de cette enquête?
Bien, les enquêteurs de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure et de la section antiterroriste de la Brigade Criminelle de Paris ont travaillé très vite. Une carte grise retrouvée dans la voiture de l'assaillant leur a permis de remonter la piste d'un homme qu'ils connaissent très bien. Vous allez revenir sur son profil criminel assez chargé. Karim C avait notamment été condamné pour avoir tiré sur des policiers et il avait été entendu plus récemment après avoir proféré des menaces de mort à leur encontre. Une perquisition a été menée dans la nuit à son domicile en Seine-et-Marne. Trois de ses proches, vous l'avez rappelé, placés en garde à vue. Alors c'est une procédure normale qui ne signifie pas qu'ils sont impliqués. Les investigations se poursuivent bien sûr pour déterminer si l'assaillant a bénéficié de complicité et desquelles. Lors de l'assaut hier soir, il a agi seul, mais il faudra bien sûr savoir notamment comment il s'est procuré la Kalachnikov qu'il a utilisée. Par ailleurs, dans son véhicule, les policiers auraient retrouvé, selon des sources proches de l'enquête, un fusil à pompe avec des munitions de calibre 12, deux gros couteaux de cuisine et un sécateur, ainsi qu'un Coran. L'homme s'était-il radicalisé? C'est ce que l'enquête devra notamment établir. L'État islamique, hein, vous le disiez, a revendiqué l'attaque d'hier soir, parlant d'un certain Abou Youssef le Belge. S'agit-il d'une revendication d'opportunité? S'agit-il du même homme, voire d'un complice? Eh bien, tout reste ouvert à ce stade. En tout cas, les services français ont confirmé travailler en étroite collaboration avec la police belge. Hier, un homme avait été signalé à la France par les services belges. Un avis de recherche lancé. Cet homme s'est présenté dans un commissariat d'Anvers où il est entendu. Il est soupçonné d'avoir voulu se rendre dans la capitale française. Lors d'une perquisition, les autorités belges auraient retrouvé un billet de Thalys pour la France en date du 20 avril 2007, des armes à feu et des cagoules. Mais aucun lien n'est pour le rétablir avec l'attaque d'hier soir sur les Champs-Élysées. Bien sûr, les prochaines heures permettront d'en dire plus. Le procureur François Molins doit de nouveau s'exprimer dans la journée.
Marie-Pierre Véraud, voilà donc pour cette enquête. On revient maintenant sur le parcours de l'assaillant qui est assez chargé, comme vous venez de le dire, Marie-Pierre. Il avait été condamné notamment en février 2005 à 15 ans de réclusion pour trois tentatives d'homicide volontaire, dont deux visaient déjà des policiers. Florence Turbe.
Oui, l'assaillant des Champs-Élysées, le dénommé Karim C, était très connu des services de police et de la justice, mais pas pour des faits de nature terroriste, mais pour de nombreux délits, plus d'une vingtaine inscrits à son casier judiciaire depuis 1996, et surtout ce dossier criminel qui remonte à l'année 2001. L'homme circulait à bord d'une voiture volée, armé d'un revolver. Il avait percuté le véhicule de deux jeunes frères. L'un d'eux, élève de gardien de la paix, le prend alors en chasse. À pied, il le rattrape, le fuyard ouvre le feu sur lui et le blesse grièvement au thorax. L'histoire ne s'arrête pas là. Deux jours plus tard, en garde à vue, il s'empare de l'arme d'un policier, tire à nouveau à plusieurs reprises. En 2003, il comparaît une première fois devant la cour d'assises de Seine-et-Marne, qui le condamne à 20 ans de réclusion criminelle, une peine ramenée à 15 ans lors de son procès en appel en 2005. C'est donc un homme considéré comme extrêmement dangereux et violent, qui s'en est déjà pris à des policiers et qui avait à nouveau proféré des menaces à l'encontre des forces de l'ordre depuis sa sortie de prison en 2015. ce qui lui a valu d'ailleurs d'être interpellé le 23 février dernier, mais remis en liberté faute d'éléments suffisants. Le parquet de Meaux avait toutefois ouvert une enquête, mais la section antiterroriste n'avait pas été saisie. Au cours de ses 10 ans de détention, il ne s'était pas non plus fait remarquer pour une quelconque radicalisation. Il ne faisait pas non plus l'objet d'une fiche S. L'enquête peut bien sûr apporter de nouveaux éléments.
Merci Florence Turm. Et puis j'ajoute que François Fillon répète ce matin qu'il y a eu d'autres attaques hier soir à Paris. Il fait allusion, selon son entourage, à l'agression d'un militaire de l'opération Sentinelle à la station de métro Étienne Marcel. Monsieur Fillon avait déjà déclaré donc hier soir sur France Télévisions qu'il y avait eu d'autres attaques à Paris, en plus de celle donc qui a causé la mort de ce policier. Cette affirmation avait été démentie par le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Interrogé donc ce matin sur TMC à l'issue de sa déclaration à la presse, son QG de campagne, l'ancien Premier ministre affirme « Regardez les rapports de police, ces attaques, elles ont existé. Il y a eu d'autres attaques hier soir. » Fin de citation. Dernière journée de campagne qui est donc bouleversée évidemment par l'attentat. Plusieurs candidats ont annulé leur déplacement, Marine Le Pen, François Fillon, Emmanuel Macron notamment. Et puis bien sûr, tous les candidats ont réagi à l'événement. Antoine Maret.
Effectivement, ils ont réagi tous hier soir en temps réel et certains l'ont fait ce matin dans un discours. À commencer par Marine Le Pen qui a dressé le portrait judiciaire du terroriste. Son histoire est le symbole de la défaillance de l'appareil judiciaire privé d'ordre politique clair selon elle. La candidate du Front National renvoie dos à dos la gauche et la droite, montre du doigt l'islamisme radical. Elle rappelle les mesures qu'elle souhaite mettre en œuvre si elle est élue. La perpétuité réelle pour les crimes les plus graves, la suppression des remises de peines automatiques, les rétablissements des peines planchers et de la double peine. François Fillon se présente en homme d'État. Lui qui a été Premier ministre veut se montrer à la hauteur du défi, celui d'une guerre longue contre un adversaire puissant. Il se place du côté des forces de l'ordre et propose de recruter 10 000 policiers supplémentaires. Il réitère sa volonté d'une alliance contre le terrorisme avec les grandes puissances allant de Washington à Moscou. Benoît Hamon dénonce de son côté ce qu'il qualifie de sordide surenchère politique. Le candidat socialiste veut consacrer plus de moyens au renseignement et à la lutte contre l'islamisme radical. Et puis ce matin, chez nos confrères de LCI, Philippe Poutou a réitéré sa déclaration d'hier soir très polémique. Selon lui, si les policiers n'avaient pas été armés, ils n'auraient peut-être pas été visés. Enfin, Emmanuel Macron, qui a annulé les 2 meetings prévus aujourd'hui, est en train de s'exprimer depuis son QG de campagne en ce moment.
Merci Antoine Maret. Alors évidemment, les observateurs s'interrogent, comme souvent dans ces situations, sur le rôle éventuel que pourrait avoir l'attentat sur une campagne au moment où vont se cristalliser, ou se cristallisent, dit-on, de nombreuses intentions de vote. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Antoine.
Quel impact? Apparemment, je vois que Donald Trump vient de commettre, si je puis dire, un tweet en disant que la fusillade de Paris aura un effet important sur l'élection présidentielle française. C'est ce qu'il déclare à l'instant. Donc, bon, il n'est pas évident que l'impact soit aussi fort que cela. Oui. Il pourrait être marginal.
Oui, on va laisser Donald Trump passer considération. Alors, évidemment, il serait très hasardeux d'anticiper un quelconque impact ou une absence d'impact de cet attentat sur le premier tour de scrutin dimanche. Mais on essaie de regarder les choses un peu à plat et un peu à froid. On peut noter un petit effet de sidération hier soir sur les candidats quand on a appris ce qui s'était passé. 3 d'entre eux, Macron, Fillon, Le Pen, ont annulé ce qui était prévu à leur agenda du lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui, et ils ont tous fait une déclaration à la presse ce matin. Mais au-delà de ça, on a certes François Fillon qui, à l'instant, essaie de dramatiser un peu les choses en réaffirmant qu'il y a eu d'autres attaques hier soir. Mais l'émission d'hier soir sur France 2 n'a pas été interrompue. Il n'y a pas un emballement médiatique tel qui témoignerait de l'effroi et de la sidération que cette attaque susciterait au sein de la population. Bref, aussi terrible que soit cet attentat terroriste, il n'est pas une surprise. Il intervient après d'autres attaques relayées médiatiquement ces derniers mois. Pour le dire autrement, il s'inscrit dans le cadre d'une menace terroriste ambiante qui a largement été intégrée par les Français. Dès lors, on peut imaginer que l'incidence sur le vote, sur le choix d'un certain nombre d'électeurs dimanche, s'en trouvera nécessairement limitée.
Alors, campagne officielle qui s'achève tout à l'heure à minuit. Les médias n'ont donc plus le droit de publier, de diffuser des sondages ou des déclarations de candidats, et ce jusqu'à dimanche 20h. Nous avons reçu donc à France Culture les résultats de la dernière enquête Ipsos pour Radio France, dernière des dernières. Est-ce qu'on y trouve, Stéphane Robert, des indications sur les dynamiques de fin de campagne?
Si l'on regarde cette photographie qui, attention, n'a pas de valeur prédictive sur le résultat du premier tour dimanche, on peut voir que dans le rapport de force, Emmanuel Macron et Marine Le Pen reste en position de favori avec un Macron autour de 24% d'intention de vote déclarée et qui opère une légère remontée depuis 2 semaines à mesure que la sûreté du choix en sa faveur s'est affirmée. Et une Marine Le Pen qui, à contrario, a vu depuis 2 mois la courbe des intentions de vote en sa faveur s'éroder, lentement mais constamment. Elle est aujourd'hui aux alentours de 22%. Quant à François Fillon et Jean-Luc Mélenchon, ils sont donnés à égalité, 19% chacun. Un score qui s'inscrit très légèrement à la hausse pour Fillon sur le mois écoulé, alors que Jean-Luc Mélenchon, lui, a enregistré une forte dynamique au cours du dernier mois et qu'il semble, depuis quelques jours, se stabiliser à ce niveau-là, juste en dessous des 20%. Mais tout ça ne sont que des indications, que des tendances qui, compte tenu des marges d'erreur, ne présagent en rien du résultat final. Et l'issue de ce premier tour de scrutin est d'autant plus incertain que plus d'un quart des électeurs disent ne pas encore avoir définitivement arrêté leur choix.
Stéphane, Robert, merci. Dernier papier sur les sondages premier tour avec vous. On va se tourner vers notre invité, l'invité du journal, Julia Cagé. Bonjour.
Bonjour.
Économiste, soutien à Benoît Hamon. Bon, on va vous interroger évidemment sur le programme de Benoît Hamon, mais d'abord sur ces sondages qui apparemment ne vous donne pas en forte position, en tout cas votre candidat.
Moi, je trouve qu'on a donné beaucoup trop de poids à ces sondages pendant la campagne. Et c'est d'autant plus dommage qu'à la suite de ce qui s'est passé au Royaume-Uni avec le Brexit, à la suite des élections américaines, des journaux, par exemple le Parisien, s'était engagé finalement à publier un peu moins de sondages parce qu'on voyait à quel point ça venait bruiter la démocratie et qu'en plus ils avaient une faible valeur prédictive. Ça n'a pas tenu très longtemps. On a passé toutes ces dernières semaines à démultiplier les sondages où finalement on commente des variations de plus 0,5, moins 0,5, des variations de tendance dont on sait très bien, il suffit d'avoir fait un tout petit peu de statistiques, qu'elles sont entièrement dans les marges d'erreur. Donc là, par exemple, vous nous parliez des quatre premiers candidats. Les quatre premiers candidats sont dans la marge d'erreur. Et Benoît Hamon, vous dites 7,5-8%, mais en fait, avec la marge d'erreur, il est très bien à 13 ou 14%. Ça, on le sait. Et je trouve qu'au-delà de l'enjeu de cette élection, un enjeu important pour les médias et la démocratie, c'est dans le futur d'obliger les instituts de sondage à ne plus publier que les intervalles. Et pas des chiffres qui sont tirés plus ou moins au sort à l'intervalle.
Que les intervalles, ça va effectivement encore plus.
On publiera moins de sondages. On publiera moins de sondages parce qu'on aura moins d'effets d'annonce tous les jours. Ah, tel candidat est un peu en progression. Ah, celui-ci perd un peu de dynamique. Alors qu'en fait, il n'y a pas vraiment eu de changement.
Ça veut dire qu'on donnerait Hamon à combien avec un intervalle aujourd'hui ?
À l'intérieur d'un intervalle, il serait quelque part. Beauté entre guillemets de l'intervalle. Il serait potentiellement 3 points en dessous de quelque part entre 5 et 12. Oui. Voilà, c'est ça l'intervalle.
Et Mélenchon.
Mélenchon, du coup, il est à combien là dans votre
19.
Sondage ? Il est à 19, donc potentiellement il est en tête. Mmh. Il sera à 24, et entre 14 et 24. Après, ça dépend de la taille des échantillons tirés. Moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est surtout qu'on a des instituts de sondage qui ne publient pas l'intégralité des sondages. Il devrait y avoir en ligne l'ensemble des réponses, la taille des échantillons. Je vous le dis très sérieusement. Pour le coup, là, je ne vous parle pas comme conseillère de Benoît Hamon, mais comme spécialiste des médias et ayant travaillé beaucoup en économie politique sur les questions de démocratie, je pense que ça devrait être fait. Ça améliorerait beaucoup la qualité du débat démocratique. Et encore une fois, ce qui est vraiment dommage, c'est que les médias se sont interrogés là-dessus au mois de novembre, au mois de décembre. Ils avaient pris des engagements par rapport à cette campagne, engagements auxquels ils ne se sont pas tenus. Et malheureusement, ça prend beaucoup de place, ça fait beaucoup de bruit et on évite de parler du fond.
Alors, juste un petit mot, parce qu'une dépêche nous apprend qu'un mot manuscrit a été retrouvé défendant Daesh près du tueur hier soir, donc sur les Champs-Élysées, confirmation du lien avec l'État islamique de l'assaillant d'hier soir qui a donc été abattu après avoir tué et blessé un policier. Ludovic Piétenu, nous continuons donc avec Julia Cagé de parler peut-être de Benoît Hamon, de son programme.
Avec ses dépenses, ses recettes, on a par exemple avec cette actualité ces policiers visés hier soir sur les Champs-Élysées. Est-ce que votre programme ne souffre pas d'un trop faible recrutement de gendarmes et policiers? Vous en prévoyez 5 000, comme
oui,
François Fillon.
On en prévoit 5 000 supplémentaires en termes de gendarmes et de policiers, mais on prévoit aussi de fortement augmenter les moyens donnés aux services de renseignement. Et bien sûr, s'il faut augmenter encore davantage les moyens de la gendarmerie, de la police, des services de renseignement, on ira au-delà de 5 000. On a un candidat, Benoît Hamon, qui est prêt à investir dans les fonctionnaires et qui est un des seuls d'ailleurs à avoir une vision positive de la fonction publique, là où Emmanuel Macron comme François Fillon veulent couper, parce que François Fillon, vous dites, il en veut plus 5 000 dans la gendarmerie et la police. En même temps, il veut supprimer 500 000 postes de fonctionnaires. Il nous a toujours pas dit où. Macron un peu moins, parce que lui, il est toujours un peu entre les deux, donc il sait pas vraiment quoi choisir. Donc en fait, il a dit 120 000. Mais il dit pas non plus dans quel secteur. Nous, on veut investir dans la santé, dans l'éducation, dans la sécurité des Français, et dans tous ces postes-là, on assume très bien de dépenser davantage et d'embaucher davantage de fonctionnaires et également de mieux les rémunérer, notamment en ce qui concerne la police de proximité et la police dans les quartiers qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles aujourd'hui.
Est-ce que la réalité ne vient pas choquer le programme quand on voit 5000 policiers et gendarmes recrutés chez Hamon Fillon, 7500 chez Macron, 10 000 chez Mélenchon, 15 000 chez Marine Le Pen? Est-ce que vous n'êtes pas en deçà de la nécessité, de la réalité ?
Mais vous savez très bien que ce programme, il n'a pas été écrit hier à la veille de l'attentat. Et je ne vais pas vous changer absolument tous les chiffres aujourd'hui pour tirer profit de cet événement sur lequel on devrait tous se recueillir.
Parce que
finalement,
ça a un coût aussi, cette proposition.
Mais s'il faut embaucher davantage de gendarmes et davantage de policiers, bien sûr que Benoît Hamon, président de la République, le fera. Mais de ce point de vue-là, je pense que... J'espère que tous les candidats le feront. Vous dites ça à géométrie variable. On voit bien qu'un certain nombre de dépenses dépendent des besoins. Pour l'éducation, par exemple, on sait très bien, finalement, on a des projections assez claires de l'évolution durant le prochain quinquennat du nombre d'étudiants. Et c'est pour ça qu'on a pu chiffrer très précisément l'investissement qui semble, selon nous, nécessaire dans l'université. 1 milliard supplémentaire par an pour qu'enfin on dépense davantage par tête d'étudiant, parce que si on regarde aujourd'hui, on dépense moins en 2017 par tête d'étudiant qu'en 2007. Donc c'est pas comme ça qu'on va investir dans le futur. Sur la sécurité, on voit bien qu'il y a davantage d'aléas liés à l'actualité et que bien sûr c'est pas parce qu'on a marqué 5000 dans le programme, s'il y a des changements de la situation sécuritaire et des besoins supplémentaires, il y aura un investissement supplémentaire qui sera fait, mais j'espère que ça sera fait d'ailleurs par tous les candidats et pas seulement que seul Benoît Hamon aura l'intelligence de le faire.
Julia Cagé, la campagne s'achève. J'imagine que vous n'êtes pas mécontente. Vous allez pouvoir vous reposer un petit peu parce que vous avez été très très présente pendant toute cette campagne.
Voilà, j'ai encore deux semaines de campagne.
Excusez-moi, j'avais oublié ce détail. Et non, simplement, sérieusement, pour savoir un peu comment, quel bilan vous tirez de cet engagement personnel, vous, en tant qu'économiste, intellectuel, universitaire.
Ça a été un très bel engagement. C'est un engagement dont je suis très fière. Et je pense que c'est un engagement qui est vraiment symbolique de ce qu'a été la campagne de Benoît Hamon. Là où les autres candidats ont mis en avant le populisme, ont privilégié les effets de manche ou alors traînent derrière eux le poids de leur casserole, de la corruption et de la mauvaise utilisation des fonds publics. Là où ces candidats-là ont choisi finalement de faire de la démagogie, Benoît Hamon, pendant toute cette campagne, a choisi de parler à l'intelligence des Français et à l'intelligence des citoyens. Et c'est pour ça qu'il a mis sur le devant de la scène, et c'est pour ça aussi qu'un certain nombre d'intellectuels ont choisi de le rejoindre et de faire cette campagne à ses côtés. Parce qu'ensemble, finalement, nous avons parlé à l'intelligence des Français, à l'intelligence des citoyens, et le rassemblement, grand rassemblement qui a été un énorme succès populaire qui a eu lieu mercredi dernier, Place de la République, en a été un très beau symbole. Il ne s'est pas simplement choisi de faire à la Mélenchon, vous savez, un meeting à la Marseillaise où vous donnez l'impression de marcher sur l'eau avec des positions christiques, finalement, très proche de celle d'un Emmanuel Macron. On a commencé l'après-midi à 17h. Pendant plus de 2 heures, il y a eu des forums avec des intellectuels qui ont débattu avec des citoyens sur un certain nombre de propositions qui sont des propositions de fond. Il y avait des milliers de personnes Place de la République. On était un mercredi à 17h avant le discours de Benoît Hamon. Je pense que ça a été la beauté de cette campagne de Benoît Hamon, et j'espère que cette relation retrouvée grâce à lui entre la gauche et les intellectuels, on pourra la prolonger au-delà de cette campagne.
15 secondes.
Oui,
pour les deux. Allez-y.
Qu'est-ce que vous allez faire dimanche, un vote tactique dans l'isoloir ?
Ah mais dimanche, je vais voter pour mon candidat, Benoît Hamon, et j'invite tous les Français à faire de même. Il n'y a pas de vote tactique. Il y a un vote utile. Et le vote utile, c'est le vote pour le pouvoir d'achat, c'est le vote pour l'emploi. Moi, je dis à tous les Français, votez pour vous. Donc, votez pour le candidat qui va vous redonner du pouvoir d'achat avec le revenu universel. Votez pour le candidat qui va vous redonner de l'emploi avec sa politique économique ambitieuse. Ne votez pas pour François Fillon qui va augmenter la TVA. Ne votez pas pour Emmanuel Macron qui va supprimer l'ISF et augmenter la CSG. Et ne votez pas non plus pour Jean-Luc Mélenchon qui va vous conduire, comme Marine Le Pen, vers la sortie de l'Europe. Votez utile, voter pour vous, ce qui veut dire voter pour Benoît Hamon.
Julia Cagé, merci beaucoup, merci. Économiste soutien de Benoît Hamon. Alors il a été assez difficile, vous l'imaginez, de tenir les comptes de l'égalité parfaite pendant ces 15 derniers jours, à la seconde près entre les candidats. Donc pour nous conformer aux règles du CSA, voici quelques paroles fortes des candidats qui ne sont pas placés en tête dans les sondages, qui ont eu un peu moins de temps sur notre antenne, mais dont chacun a aussi apporté à sa façon un point de vue différent, une voix parfois un peu détonnante. Et on commence, si vous voulez, bien par Nicolas Dupont-Aignan, quand il a révélé hier soir le contenu d'un échange de mails assez instructif avec l'entrepreneur Serge Dassault. Nicolas Dupont-Aignan.
J'ai parlé de pressions insupportables qui m'ont été adressées pour m'inciter à renoncer à ma candidature parce que je devrais renoncer à mes convictions. Et ce que je peux vous lire, je le fais, ce que m'a envoyé un grand patron de presse français, industriel, je cite, « Le boycott de mon journal n'est que la conséquence, parce que je me plaignais du boycott de son journal, de ton attitude contre Fillon. Et ce n'est pas en restant dans ton coin que tu y arriveras, mais en étant dans une équipe gouvernementale, la carotte. Il vaut mieux manger une soupe que du pain rassis. » J'ai répondu à ce grand patron de presse. Je suis scandalisé que tu assumes ce boycott. Il a répondu, cela n'arrivera plus quand tu cesseras de combattre Fillon. J'ai répondu, c'est de la censure. Il a répondu, si tu changes d'avis, il n'y aura plus de censure, je te le promets.
Quel intérêt de nous lire ça ce soir ?
C'est que j'en ai assez de cette démocratie d'opérette. C'est que je veux expliquer aux Français que s'ils payent des péages sur les autoroutes qui sont du racket, c'est parce qu'on a vendu les autoroutes, le bien public, à des groupes privés. Si les Français payent le RSI, les artisans, à crever, c'est parce qu'on ne sait pas où va l'argent du RSI. Si les travailleurs détachés font faire faillite à nos PME, nos artisans, c'est parce que des entreprises ont besoin de ces travailleurs esclaves dans notre pays. Et la politique de la France, avec moi, ne se fera pas à la corbeille. Elle ne se fera pas au service d'intérêts privés, mais de l'intérêt général.
Nicolas Dupont-Aignan, autre voix très particulière, que tous les travailleurs deviennent des lanceurs d'alerte. Proposition de Nathalie Arthaud, reprise hier dans son intervention sur France 2.
Dans cette campagne, j'ai dit qu'il fallait interdire les licenciements, commencer bien sûr par les entreprises qui font des bénéfices. C'est le cas de PSA, qui a d'ailleurs supprimé 17 000 emplois en 3 ans. C'est le cas de la BNP, c'est le cas de Sanofi, c'est le cas d'EDF, c'est le cas d'Engie. Enfin bon, c'est le cas de Whirlpool. Donc, et à chaque fois on me dit, y compris jeudi, il faudrait aussi répartir le travail. Il faudrait aussi augmenter les salaires, monter le SMIC à 1 800 euros. Et à chaque fois on me dit, Madame Arthaud, ce n'est pas possible, il n'y a pas d'argent, vous allez ruiner l'économie, etc. Eh bien, donc, je dis, oui, il faut permettre aux salariés, aux comptables, aux secrétaires, aux ouvriers qui travaillent dans ces grands groupes de dire toutes les informations auxquelles ils ont accès. Et la réalité, c'est qu'ils ont accès à tout. Et que collectivement, eh bien, on pourrait tout savoir. Et on saurait exactement l'argent qu'il y a réellement.
Mais
réellement.
Quelle modalité de contrôle ?
Et on ne, mais justement, transformer tous les salariés en lanceurs d'alerte. Tout simplement, on n'a pas besoin de dispositif spécial de commission de contrôle ou je ne sais
mais
quoi.
Il n'y aurait plus de patrons, ce salariés, serait quoi, des comités, des
là on parle du
des
contrôle.
Soviets.
Non, là, on est en train de parler du contrôle des travailleurs, de donner la possibilité aux travailleurs, dans le cadre des entreprises actuelles, de permettre aux salariés de dire tout ce qu'ils voient de ce qui se passe dans les entreprises. Parce que c'est comme ça. Ça serait fantastique qu'ils puissent voir. Parce qu'on verrait réellement ce qui est versé en salaire. On verrait ce qui est versé en dividendes. On verrait ce qui échappe à l'impôt, au fisc, l'optimisation fiscale, l'évasion, enfin tout ce que vous voulez. On verrait ce qui est réellement versé en investissement aussi. Parce qu'on nous explique que cette classe capitaliste, elle a ce rôle hein, d'investir, cette fonction, et que c'est de ce fait-là qu'il faut surtout pas la contester.
Voilà, Nathalie Arthaud, autre thème, comment se libérer du pouvoir de la finance internationale, un thème cher, on le sait, à Jacques Cheminade.
En 1979, on avait une dette d'environ 239 milliards d'euros, aujourd'hui c'est 2170 milliards d'euros, et entre-temps, on a payé 1 400 milliards d'euros d'intérêts en empruntant. C'est un système dans lequel on nous tient depuis que on a fait en sorte que ce soient les banques qui doivent financer l'État. C'est-à-dire qu'on a augmenté un crédit pour sauver un système financier, en réalité, ou pour se créer des clientèles. Et on n'a pas fait un crédit pour le futur. Moi, je suis pour qu'on revienne à un système de crédit national où ce crédit national financera le futur. Pour cela, il faut une banque nationale.
Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'une poignée d'hommes, elle, des banquiers à Wall Street ou ailleurs, dirige le monde ?
Non, c'est plus compliqué que ça. C'est une idéologie et c'est une façon de voir le monde. Et les gens s'y adaptent. Alors, tout un système se branche sur cela et chacun pense en fonction d'un monde fermé, fini, et pas d'un monde qui se développe. Alors, même quand ils prétendent le développer, ils le développent pas parce qu'ils ont une conception du monde qui est un monde fini. C'est pour ça que moi, je suis pour un monde qui a un futur, et qu'il faut se battre, il faut en créer les conditions. Et si l'État ne contrôle pas la monnaie, c'est la monnaie qui contrôle l'État. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Georges Borglis, le conseiller de Mendès France et de la France Libre.
Avant, dernière intervention maintenant, proposition phare de François Asselineau, le candidat du Frexit.
Si les services publics sont actuellement démantelés, c'est sous la pression de l'Union européenne et en particulier sous l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le chef de l'État, c'est quelqu'un qui doit connaître les dossiers et qui doit connaître les engagements pris au nom du peuple français. L'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en fait, nous impose progressivement, avec une tactique du salami, de privatiser les uns après les autres tous les grands services publics à la française. Or, les Français ne sont pas des anglo-saxons. C'est la raison pour laquelle j'ai prévu dans mon programme, d'abord d'être cohérent, je propose de mettre en œuvre la sortie de l'Union européenne dès mon accession à l'Élysée par la mise en œuvre de l'article 50. Ensuite, je proposerai aux Français d'institutionnaliser, d'inscrire dans la Constitution le principe des grands services publics à la française et de les renationaliser si nécessaire, d'EDF, GDF, La Poste, la SNCF, Orange, toutes les sociétés d'autoroutes dont la gestion a été vendue, notamment à Vinci, et toute banque bénéficiant de fonds publics à un moment ou à un autre, parce que ça suffit que les banques, moi je suis tout à fait favorable à l'entreprise privée, mais des banques qui dégagent du profit pour les actionnaires et quand elles dégagent des pertes, c'est pour les contribuables, ça n'est pas tolérable.
François Asselineau, on termine ce petit rattrapage avec l'une des voix singulières, s'il en est de la campagne, Jean Lassalle.
L'État ne donne plus rien. Les conseils départementaux n'ont plus un sou. Les conseils régionaux, ils ne peuvent pas s'occuper de ce genre de problème. Résultat des courses, vous n'avez plus rien. Et ces villages meurent, jour après jour. Et on a même décidé de mettre un terme à l'exercice de leurs maires. Des maires M-A-I-R-E-S.
Un petit point aussi sur votre programme. Vous voulez partager la responsabilité dans l'entreprise. Vous écrivez, vous voulez retrouver la joie de travailler. Comment vous faites pour redonner la joie de travailler? Est-ce que ça se décrète, la joie?
Non, ça ne se décrète pas. Elle s'obtient. Et pour ça, il faut conduire, pour commencer, ce que j'ai essayé de faire, une campagne qui soit à la fois solennelle, mais joyeuse. Gandhi, qui est un des hommes dont je me suis inspiré, disait, il ne peut pas y avoir de résultat sans campagne, sans démarche, sans épopée joyeuse. Cela fait 30 ans, 25 ans maintenant, que ce rêve exceptionnel s'évanouit devant nos yeux. Et si j'ai apporté ces deux rapports, c'est parce que les Français et les 15 pays que j'ai vus n'en peuvent plus. Ils n'ont plus de gouvernement chez eux. C'est des gouvernements fantômes, c'est des théâtres d'ombre. Et ils n'ont plus non plus de direction à Europe. Et ça, ils ne peuvent plus le supporter. C'est la raison pour laquelle je vais reconstruire un État. Un État qui soit capable, de nouveau, de porter liberté, égalité, fraternité sur l'ensemble du territoire, là où nous avons laissé perdre nos services publics. Et ensuite, je vais relancer la démocratie du territoire à partir du maire, là où ça a été mis, sans dessus-dessous.
Et sur l'Union européenne, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, je vais fonctionner sous l'égide de l'Europe des nations. Je vais mettre d'ailleurs au passage un terme à la belle hypocrisie que nous avons, c'est-à-dire je travaillerai avec les chefs d'État et de gouvernement.
Jean Lassalle, du soleil sur la moitié sud, notamment sur les Pyrénées orientales, les Pyrénées Atlantiques, département de Jean Lassalle, un ciel plus variable au nord, des températures qui repagnent quelques degrés de 14 à 22 degrés, édition réalisée avec Yacine Bouzard, 17h, le magazine L'Inde face au nationalisme, les libertés menacées, reportage de Mathilde Vallant, réalisation à Libro, présentation Anne Fauquemberg, le journal à 18h, c'est avec Bénédicte Robin.